Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Alain de Toledo et Zeliko Jovanovic pour le colloque international sur les langues judo-espagnoles qui aura lieu le dimanche 19 novembre prochain à l'Institut Elie Wiesel. Et comme chaque émission maintenant, une pensée pour débuter à tous les otages retenus par le Hamas et les familles des victimes du massacre le plus barbare et le plus meurtrier en Israël depuis la création de l'État hébreu. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Zeliko.
Bonsoir Sandrine, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors pour commencer, quelques mots de présentation. Et c'est vous qui allez débuter, Alain de Toledo. Vous êtes le président de l'association Muestros Desaparecidos, Nos disparitions en judéo-espagnol. Elle est née de la réunion de plusieurs associations. Aquí estamos, les judéo-espagnols au présent. Alciete, qui est la maison judéo-espagnole à Paris. Le centre communautaire Don Isaac Abravanel. L'association judéo-espagnole à Auschwitz. L'Union des Israélites séfarades en France, la plus vieille association judéo-espagnole. Et les associations Vidas Largas nationales et sa branche à Marseille. Si on dit... J'ai oublié quelque chose.
Non, c'est exact.
C'est ça. Alors, si on dit que l'objectif de votre association est de mettre en lumière le sort des communautés judéo-espagnoles qui ont essaimé en France au XXe siècle, et notamment le destin funeste des victimes de la Shoah, est-ce que ça résume au mieux le projet de l'association ?
Absolument, absolument. Et ce projet donc, s'est traduit par l'édition d'un mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Un monument, on peut dire, de 720 pages avec beaucoup d'illustrations. Nous étions partis sur l'idée d'établir la liste de ces déportés, un petit peu comme Serge Klarsfeld l'avait fait. Et puis le projet s'est enrichi car on s'est dit que beaucoup de gens ne savent pas qui sont les judéo-espagnols. Donc il y a toute une partie historique pour rappeler ce qu'était cette communauté dans l'Empire ottoman, et comment ils sont venus en France et comment s'est passée la guerre pour eux.
Alors il y a un autre ouvrage qui a été publié récemment par l'association, c'est El Nehama al Reverso, un vocabulaire français judo-espagnol, avec en version papier ou en version électronique. Ces deux ouvrages sont d'ailleurs disponibles sur le site, on peut les commander.
Absolument.
Par le site de l'association. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier ce second ouvrage ?
Alors, je vais essayer d'être rapide, parce que si je raconte toute l'histoire, on va y passer deux heures. Disons simplement que l'objet de notre association, ce sont les disparus, et en même temps, malheureusement, c'est aussi la disparition d'une culture. Parce que sans les locuteurs, une langue a beaucoup de mal à survivre. Alors, Zeliko va parler ensuite de tout le magnifique travail qu'il fait. On l'a rencontré à l'INALCO, où il enseigne. Et bon, on a eu la surprise, par exemple, de voir une étudiante japonaise à son cours. Donc, tout ça est très, très bien. Mais d'un autre côté, malheureusement, il n'y a plus beaucoup ou plus du tout, mettons, d'enfants pour qui le judéo-espagnol est la langue maternelle. Donc voilà, on essaye de soutenir, mais malheureusement, c'est très 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 difficile.
Avant de donner la parole à Zeliko, juste une citation d'un personnage qui est important dans votre association, c'est le professeur Chaim Vidal Sefira. On a l'impression que ses travaux planent un petit peu sur votre action, est-ce que c'est exact ?
Alors, il faut parler du professeur, c'est lui qui a relancé tous les travaux sur la langue judéo-espagnole. Et c'est grâce à lui, d'une part, que j'ai connu ce monument qui est le dictionnaire de Nehama, dictionnaire du judéo-espagnol, il faut bien le préciser. Et c'est lui qui m'a encouragé à faire ce vocabulaire du français vers le judéo-espagnol. Donc, effectivement, quand il est disparu il y a maintenant plus de deux ans, ça a été une très, très grande perte pour la communauté.
Alors, notre second invité est Zeliko Jovanovic. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, où vous enseignez la langue et la civilisation judéo-espagnole ainsi que l'histoire médiévale des Juifs séfarades. Vous êtes également membre du CERMOM, le centre de recherche sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Quels sont précisément vos actes de recherche ?
Avant de commencer avec ma recherche, je voudrais féliciter Alan de Toledo et son équipe pour un travail magnifique qu'on a fait avec le dictionnaire de Joseph Nehama. Et le colloque sera une bonne occasion pour présenter ce travail au public plus large. Je suis hispaniste de formation, donc quand j'ai décidé de faire le doctorat, j'ai essayé de chercher un projet qui peut connecter le Balkan, c'est la région de mon origine, et la péninsule ibérique. Et je pensais que la présence de séfarades presque à côté chez moi était une bonne raison, un bon prétexte pour moi pour changer un peu l'objet de ma recherche et me concentrer sur la culture séfarade. Je me concentre surtout sur les communautés séfarades dans la ex-Yougoslavie, c'est-à-dire les communautés séfarades de Serbie, de Bosnie et de Macédoine du Nord, parce qu'il s'agit de communautés qui sont moins connues en comparaison avec les grandes communautés séfarades de Salonique, d'Izmir, d'Istanbul et aussi de l'Afrique du Nord. Donc, c'est la raison principale de ma recherche.
Et on est ravis de vous avoir parmi nous et d'avoir votre accent qui est magnifique à écouter à la radio. Alors, l'actualité qui nous réunit, évidemment, c'est l'organisation de ce colloque international sur les langues judéo-espagnoles qui aura lieu, je le rappelle, le dimanche 19 novembre prochain de 14h à 18h à l'Institut Elie Wiesel, 119 rue Lafayette à Paris dans le 10e. Il réunira des chercheurs internationaux qui exploreront la richesse des langues judéo-espagnoles. Première question un peu difficile à résumer, Zeliko, c'est quoi finalement les langues judéo-espagnoles ? Parce qu'il y a beaucoup de controverses et de confusions sur la définition.
C'est une très bonne question, parce qu'il y a un avis plus général que les Juifs séfarades. On a parlé déjà les judéo-espagnols à l'époque médiévale. Donc je pense que le colloque sera une bonne occasion pour expliquer et surtout pour essayer d'activer un dialogue entre le monde universitaire, le monde académique et le public plus large sur les questions importantes. Et une question vraiment importante, c'est la question des langues. Quand émerge le judéo-espagnol, où se parle le judéo-espagnol aujourd'hui, où se parlait le judéo-espagnol avant, quelle est la différence entre le judéo-espagnol de l'Empire ottoman et la variété du judéo-espagnol parlé au Maroc, à l'Afrique du Nord? Quels sont les termes utilisés pour dénominer les langues? Quels sont les alphabets utilisés par les Juifs séfarades pour écrire avant et aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la raison de ces changements, etc., etc.? Donc, le colloque a vraiment essayé de inclure tout type de questions qui sont importantes pour la situation des judéo-espagnols avant et aujourd'hui. Et aussi, la troisième session, par exemple, est dédiée à parler sur les associations qui travaillent pour la conservation des judéo-espagnols et la promotion de la culture, comme l'association dirigée par Alain de Toledo, Muestros Desaparecidos, mais aussi Aquí Estamos. Aussi les associations en Turquie. Donc, comme vous avez bien dit, c'est un colloque international. C'est un bon moment de parler sur l'avenir du judéo-espagnol et des langues minoritaires, parce que je voudrais vous rappeler que le judéo-espagnol a été déclaré en 2002 par l'UNESCO comme la langue gravement menacée. C'est-à-dire que la situation actuelle des judéo-espagnols, comme a expliqué très bien Alain de Toledo, est vraiment d'urgence.
Alors, on va en reparler dans un instant. Juste dans cette petite tentative définitionnelle, il y a un mot que vous n'avez pas employé, c'est le mot ladino, qui parfois, pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment bien le monde judéo-espagnol, pensent qu'il est Il englobe toutes ces langues et on a bien mis en plus le colloque au pluriel, hein, enfin les langues judéo-espagnoles, parce que ladino, ce n'est pas l'essentiel des langues judéo-espagnoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, ben, il y a surtout l'école française, mais aussi l'école espagnole fait la différence entre le terme ladino et le terme judéo-espagnol. Ladino, normalement, est utilisé pour dénominer une langue cale qui était utilisée pour traduire les textes de l'hébreu au judéo-espagnol. Normalement, il s'agit de textes religieux, de textes de la littérature rabbinique, tandis que le judéo-espagnol est considéré la langue parlée. Je dois souligner aussi qu'aujourd'hui, en Israël et dans le monde anglo-saxon, le ladino et le judéo-espagnol sont utilisés comme synonymes. En fait, les institutions principales en Israël consacré à la conservation du judéo-espagnol, comme l'Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura, etc., utilise ladino comme le synonyme de judéo-espagnol. Et aussi, la plupart des locuteurs, c'est-à-dire des séfarades qui encore parlent le judéo-espagnol après la Seconde Guerre mondiale, préfère utiliser le terme ladino et judéo-espagnol comme synonyme. Mais traditionnellement, il y a une différence dans le monde académique entre la langue calque et la langue parlée. Donc, un terme réservé pour la langue calque, c'est ladino, qui vient du terme latino, c'est-à-dire qui vient d'espagnol, et judéo-espagnol, qui est un terme créé par le monde académique. Donc, ce n'est pas le terme utilisé par les séfarades même. Les séfarades même, on appelait la langue el judaïsme, el didio, el espagnol, el espagnolite, mais pas judéo-espagnol. Donc, c'est un terme académique, et c'est un terme...
Alain, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, une petite précision. Dans ma famille, je n'ai jamais entendu le mot ladino. Mes parents disaient qu'ils parlaient espagnol. Ça a d'ailleurs créé une petite surprise pour moi quand j'étais au lycée. Devant moi, le professeur parlait castillan et moi, mon espagnol. Il y a eu comme une incompréhension.
Alors, d'où vient votre judéo-espagnol? Il vient de Salonique?
Alors, du côté de ma mère, c'est Salonique. Du côté de mon père, c'est Edirne, qui s'appelait avant Andrinob, qui est à la frontière avec la Grèce, entre la Grèce et la Turquie. Et ensuite, la famille a quitté Edirne pour aller à Istanbul avant de venir en France.
Est-ce que c'était votre langue maternelle? Vous l'avez apprise avant d'apprendre le français à l'école?
Alors, pas du tout, pas du tout. Les parents, comme je suppose beaucoup d'autres parents après la guerre, voulaient que j'aie une éducation française. Je crois que ça a été un petit peu le cas aussi dans les familles ashkénazes. Et donc, le judéo-espagnol était la langue des parents. Et ils ne me l'ont pas enseigné du tout. Bon, je les ai entendus parler, donc il est resté un petit quelque chose.
Et alors, qu'est-ce qu'elle relevait, cette langue, pour vous? Est-ce que c'est la langue de la nostalgie, d'un Éden qui a été quitté par vos parents? Est-ce que c'est simplement la langue de vos parents?
Alors, c'est la langue des parents et plus généralement la langue de ma communauté, dirais-je.
Alors, vous aussi, hein, Zélico, c'est un judéo-espagnol particulier dont vous allez parler au colloque. Il faut rappeler qu'il y aura trois moments pendant le colloque. Donc, une première partie sur l'histoire et les particularités des langues judéo-espagnoles dans laquelle vous interviendrez. Une deuxième partie sur les dynamiques et perspectives des langues judéo-espagnoles et puis une dernière avec le dynamisme des langues judéo-espagnoles avec notamment la présentation des associations et des publications. Alors, votre thématique à vous, c'est judéo-espagnol de Bosnie. Est-ce que vous pouvez nous dire les particularités rapidement?
Ouais, je ne pense pas entrer dans les traits linguistiques parce que je pense que ce n'est pas intéressant pour vous à ce moment, mais je voudrais dire que au début du XXe siècle, il y a un changement important dans la mentalité séfarade en Bosnie qui est résultat de la désintégration de l'Empire ottoman et l'intégration dans une nouvelle société comme était tout d'abord de l'Empire austro-hongrois et après la Yougoslavie. Donc, c'est un moment quand le Sephara commence à s'intégrer, commence à s'éduquer dans la langue serbe plutôt que la langue judéo-espagnole. Et il y a une crise d'identité vraiment claire entre les Sépharades bosniaques qui commencent à parler et à discuter sur les différents aspects de sa propre culture. Normalement, dans la presse séfarade publiée à Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzégovine, et de discuter sur comment s'appelle la langue, quel alphabet on doit utiliser, pourquoi oui, pourquoi non, si on doit apprendre le serbe et abandonner le judéo-espagnol ou maintenir le judéo-espagnol, si on doit écrire la littérature en serbe, en allemand, en judéo-espagnol. Et c'est une discussion vraiment passionnante parce que je pense que ça nous donne une idée de comment a évolué la communauté séfarade jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que...
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit avec cette intervention la richesse et la pluralité de ces langues. Et là, j'ai envie de vous poser une question personnelle. Vous répondez si vous le souhaitez. Il y a l'universitaire qui travaille sur cette langue judéo-espagnole de Bosnie. Est-ce que ce sont aussi vos origines?
Il y a des personnes qui travaillent sur les différents aspects du judéo-espagnol de Bosnie. Par exemple, Jaime Vidal Sefija a travaillé sur les aspects linguistiques, Aldina Quintana aussi. J'ai des collègues qui travaillent, par exemple, à l'Université de Bordeaux, Anna Stulic, qui a écrit surtout sur les aspects linguistiques du judéo-espagnol, qui est un sujet qui a attiré beaucoup d'attention pour comparer avec des autres dialectes du judéo-espagnol, notamment les dialectes de Salonique et les dialectes d'Istanbul qui prédominent. Mais je me concentre plutôt sur la production culturelle des séfarades bosniaques et les séfarades serbes, c'est-à-dire la littérature, la presse judéo-espagnole, différents sujets de discussion intellectuelle parmi les séfarades à cette époque, à l'époque des grands changements.
Alors, je vais insister, est-ce que dans votre famille, on parlait cette langue?
Non, pas du tout. Je n'ai pas d'origine séfarade, pas du tout. Il n'y a pas de problème de répondre à la question. Désolé que je n'ai pas bien compris la question. Non, c'est simplement une manière de... connecter deux cultures qui sont vraiment proches à moi, pas personnellement, mais des points de vue sentimentaux. C'est la culture hispanique et la culture séfarade.
Est-ce que vous, Alain, vous vous reconnaissez dans toutes ces langues? Est-ce que cette pluralité, pour vous, c'est la même langue que celle de vos parents?
Oui, alors, en fait, j'avais une question pour les... d'abord. Parce que bon, quand on parle de Salonique, d'Istanbul, etc., très rapidement, on en arrive au rôle de l'Alliance israélite universelle. Que s'est-il passé en Serbie?
Justement, c'est une bonne question parce que l'Alliance a ouvert des écoles par tout l'Empire ottoman, mais jamais à Belgrade et jamais en Bosnie. C'est pour ça que les séfarades ont commencé à recevoir une éducation séculaire dans la langue serbe. Et c'est la différence.
Et pas en français.
Et pas en français. Donc, il y a une différence importante qu'on peut percevoir dans la langue aussi. Par exemple, la présence des mots turcs en Bosnie, en Serbie, c'est moins forte que la présence de cette langue dans le dialecte d'Istanbul, d'Istanbul, etc., etc. Donc, oui, il n'y a pas des écoles. Au début, existent parallèlement les écoles religieuses, Talmud Torah, Meldar c'est le nom traditionnel de l'école primaire des séfarades. et après, les écoles religieuses disparaissent et les séfarades continuent à recevoir l'éducation en serbe seulement.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie d'Alain de Toledo et de Zeliko Jovanovic, qui nous parle du colloque sur les langues judo-espagnoles qui aura lieu le dimanche 19 novembre prochain, en après-midi, à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. On en parlait en introduction, la Shoah a donné un coup d'arrêt à l'expansion de ces langues judéo-espagnoles, et pas seulement, hein, le démantèlement de l'Empire ottoman aussi. On peut dire clairement que c'est une langue qui est en voie de disparition. Est-ce qu'il y a encore des locuteurs de cette langue? On l'apprend dans les universités, on les apprend parfois dans les associations. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Est-ce que Alain, vous pouvez en dire un mot et puis Zeliko complétera?
Oui, il y a beaucoup de cours. Disons que c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais on y retrouve souvent des retraités, des jeunes retraités. Bon, il y a une contrainte claire de temps. Ce sont eux qui ont le temps d'aller suivre les cours. Pour ceux qui travaillent, c'est un peu plus difficile. Il y a un intérêt certain. Peut-être que le mot de revival est un petit peu exagéré, mais je pense par exemple qu'au colloque, enfin je l'espère en tout cas, il y aura beaucoup de monde. Quand en 2016 on avait fait une grande réunion pour présenter le projet de notre mémorial, on a réuni dans la salle de la mairie du 11e arrondissement 700 personnes. Pour un petit monde judéo-espagnol, c'est énorme. Donc voilà, il y a un intérêt certain, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants judéo-espagnols, enfin d'origine judéo-espagnole, dont le judéo-espagnol soit la langue maternelle.
Qu'est-ce que vous en pensez, Zeliko? C'est une langue en voie de disparition?
Je partage l'avis d'Alain. C'est vrai que, par exemple, le professeur Shmuel Raphaël de l'Université Bar-Ilan affirme qu'actuellement, il y a 250 000 locuteurs de judéo-espagnol. Donc, je pense que c'est un nombre un peu problématique parce que qu'est-ce qu'on peut considérer comme locuteur de judéo-espagnol? Il y a des personnes qui sont capables de faire une conversation fluide. Il y a des personnes qui connaissent quelques mots en judéo-espagnol, mais pas grand compétence linguistique dans la langue. Donc, c'est vraiment difficile de déterminer parce qu'il n'y a pas de test de niveau de langue qu'on peut faire pour déterminer le niveau de judéo-espagnol de quelqu'un. Concernant, je veux parler du monde universitaire parce que je travaille à l'université. Je me considère vraiment privilégié de pouvoir donner des cours de judéo-espagnol, les 4 niveaux que je donne à l'INALCO.
Vous avez beaucoup d'étudiants?
Je suis vraiment content de voir que chaque année, j'ai plus en plus d'étudiants parce que, par exemple, le département des études hébraïques et juives, c'est un département petit qui compte sur entre 40 et 50 étudiants par an. Et donc, cette année, par exemple, j'ai 20 étudiants pour le judéo-espagnol. Ah, c'est vraiment un nombre qui me donne beaucoup d'enthousiasme pour continuer avec le travail.
Qui sont vos étudiants? Est-ce que ce sont des descendants de familles judéo-espagnoles ou des curieux?
Pas du tout. Il y a bien sûr des personnes qui sont d'origine séfarade, mais la plupart, ce sont membres de la communauté juive en général ou les étudiants qui sont intéressés pour apprendre le judéo-espagnol comme une variété de langues liées au espagnol et à la péninsule ibérique. Cette année, par exemple, j'ai des étudiants d'arabes qui ont décidé d'apprendre le judéo-espagnol, notamment des Maroc. C'est curieux parce que je pense qu'il y a une conscience des locuteurs d'arabe de l'existence des séfarades au Maroc et d'une langue qui a été parlée là-bas. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant la possibilité qui donne l'INALCO comme université de connecter les différentes cultures qui ont été connectées de certaines manières. À part de l'INALCO en Europe, en Pologne, il y a une possibilité de prendre un cours seulement de judéo-espagnol. Et aux États-Unis, dans l'Université de Washington à Seattle et en Israël. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de lieux dans le monde où on peut apprendre à lire, comprendre et parler le judéo-espagnol parce qu'il existe les études séfarades qui travaillent sur le texte imprimé, sur le texte publié, et c'est-à-dire une analyse de texte, mais pas l'apprentissage des langues comme une langue vivante. c'est important de souligner que la manière que j'essaie d'enseigner le judaïsme espagnol, c'est comme une langue vivante parce que c'est vivant encore.
Alors c'est intéressant le côté polonais, pourquoi la Pologne et pourquoi pas la Turquie ou la Grèce? Est-ce que vous avez des réponses à cela?
Je pense que c'est l'intérêt par part de l'université, que ce n'est pas seulement l'intérêt économique, mais c'est l'intérêt général pour connaître une culture. C'est une bonne question, pourquoi en Turquie pas, mais en Turquie, il y a des associations qui travaillent, qui donnent des cours de judaïsme espagnol, mais pas
l'université.
Pas l'université. Et en Espagne aussi, l'université, on peut apprendre quelque chose sur le judaïsme espagnol comme une variété linguistique d'espagnol, mais pas un cours dédié entièrement à la culture séfarade, à la langue, etc., etc. Donc, c'est vraiment curieux de voir qu'aux États-Unis, où il y a une communauté importante d'immigration séfarade, en Pologne et en Israël, bien sûr, la communauté séfarade plus large se trouve en Israël actuellement.
Alors, il y a les cours qui sont donnés, mais il y a aussi la production littéraire et même musicale. Il y a des traductions en français d'ouvrages judéo-espagnols. Il y a de la musique que l'on peut écouter. Est-ce que finalement, c'est ça l'avenir du judéo-espagnol, c'est les traductions?
Oui. J'ai remarqué... ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de musique en judéo-espagnol, et souvent par des artistes qui ne sont pas d'origine judéo-espagnole. En revanche, la littérature par des gens d'origine judéo-espagnole se fait souvent en français. Bon, ce sont les bizarreries de l'histoire. Si vous me permettez une petite anecdote... Que m'a raconté une de mes cousines quand elle était en classe, justement, à la confrontation avec le castillan. Son professeur faisait travailler les élèves sur un texte de Cervantes. Et donc, à un moment, elle dit « Tiens, ce mot-là, je ne le connais pas. » Et ma cousine lève le doigt et dit « Ça veut dire ça. » Donc le professeur est un peu étonné. Un peu plus tard, même chose, ce mot, oui madame, ça veut dire ça. Donc le professeur a convoqué les parents et leur a dit, c'est très bizarre, votre fille, elle parle comme Cervantes. Donc voilà un petit peu un exemple de cette langue qui tout d'un coup a été séparée de ses origines et a continué à prospérer de son côté.
Alors, il y a une question qui m'interpelle, Zélico. Le judo-espagnol que vous enseignez à l'INALCO, c'est lequel finalement?
C'est le judo-espagnol de l'Empire ottoman. Donc, je suis le livre de la professeure émérite Marie-Christine Borges-Farol, qui a publié un livre, un manuel plutôt de judo-espagnol.
Que l'on salue ici, puisqu'elle fait partie du comité scientifique de ce colloque. Elle sera présente.
Et elle va parler d'un sujet très important, c'est-à-dire de la langue parlée par les Juifs ibériques à l'époque médiévale. Donc, c'est une bonne occasion pour apprendre un peu qu'est-ce qu'il y a d'original dans la langue à l'époque médiévale. Mais le judo-espagnol se base surtout sur le dialecte d'Istanbul. Donc, c'est ça, mais on prend en considération... des autres dialectes, je porte des textes et des dialogues qui viennent de Salonique, de Sarajevo, pour montrer la variété des judo-espagnols de l'Empire ottoman.
Alors, il y a un point que je tiens à évoquer aussi, c'est les femmes dans les langues judo-espagnoles. Elles ont joué un rôle important. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont été les vectrices principales de la transmission de cette langue?
Oui, c'est ça, justement, parce que bon, ça c'est lié avec les aspects culturels que les femmes, les femmes séfarades, normalement, parlaient seulement le judo-espagnol. Donc, c'est normal que les principales... transmetteurs de la langue étaient les femmes dans la famille judéo-espagnole. Je pense qu'il y a une attitude un peu exagéré dans le monde académique de dire que les femmes seulement connaissaient les ballades, les romances en judéo-espagnol, les proverbes, les contes, etc., etc. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Mais c'est vrai que le travail de terrain a démontré que la plupart des personnes qui étaient capables de raconter un conte traditionnel, une ballade, étaient les femmes. Donc, il y a une importance qui appartenait aux femmes séfarades importantes qui, justement, avec l'éducation séculaire, quand les femmes ont été incluses dans l'éducation, quand les femmes commencent à s'éduquer dans les écoles de l'Alliance ou les écoles nationales de chaque pays où les séfarades se sont installées, les judéo-espagnols commencent à être moins utilisés. Donc, on voit le lien entre les deux.
Vous avez parlé d'Israël il y a un instant. On sait qu'au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, un certain nombre se sont rendus en terre d'Israël. Ils ont été les premiers pionniers, les premiers sionistes. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette présence en Israël et de cet intérêt pour le judo-espagnol de leurs aïeux? Est-ce que vous savez?
Oui, je pense qu'Israël, comme État, a commencé à travailler beaucoup pour conserver les autres langues juives à part de l'hébreu, parce qu'avec la fondation d'Israël, l'hébreu était la langue principale. Il y a une promotion d'hébreu comme la langue de tous les juifs. Et c'est pour ça que peut-être au début, le judéo-espagnol, le yiddish, avait moins présence ou une présence moins forte dans la société israélienne. Mais aujourd'hui, c'est complètement contraire. Il y a des institutions qui ont été fondées pour travailler pour la conservation et la promotion de la langue et la culture judéo-espagnole. J'ai déjà mentionné l'Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura, qui c'est l'institution principale, mais récemment a été fondée l'Academia Correspondiente de Ladino, qui fait partie d'un réseau de différentes académies de la langue espagnole qui collaborent avec l'Espagne. Donc, il y a des projets qui promouvent à travers des festivals musicaux, des festivals littéraires qui essayent de promouvoir l'utilisation de la langue et la promotion de la culture. Donc, oui.
Alain, est-ce que vous êtes inquiet pour la promotion de la culture à l'avenir ? Et de la langue judéo-espagnole.
Excusez-moi, mais je pense qu'actuellement, on a d'autres sujets d'inquiétude, malheureusement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des efforts. On sème et on verra bien ce qui va pousser. Il faut continuer à semer.
En tout cas, nous donnons rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices de la Fréquence Juive à ce colloque, qui n'est pas seulement un colloque, puisqu'il se terminera aussi par un salon du livre où les dernières productions, publications seront présentées, notamment celle de votre association. Il y aura les deux ouvrages, à la fois le vocabulaire et puis le mémorial. Et on se retrouvera au final autour d'un buffet convivial. Il y a une question traditionnelle, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Et c'est à vous, Zeliko, que je vais la poser. Si vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de venir, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Moi, je pense que le colloque sera une bonne occasion pour dialoguer sur tous. Il ne s'agit pas seulement d'étendre les présentations que les intervenants vont faire, mais il s'agit après chaque présentation, d'engager un dialogue pour parler sur l'avenir du judéo-espagnol et en général sur l'avenir des langues minoritaires, langues menacées, en utilisant le cas du judéo-espagnol. Et toutes les personnes qui sont fans de la culture en général, je pense que trouveront beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de points d'intérêt pour assister au colloque.
Alain de Toledo, pourquoi venir à ce colloque ?
Pourquoi venir ? Pour s'enrichir.
Merci infiniment, en tout cas, Alain de Toledo et Zeliko Jovanovic, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir parlé de cette actualité à laquelle je vais participer aussi. Hein. C'est ce colloque international sur les langues judo-espagnoles qui aura lieu le dimanche 19 novembre 2023 de 14h à 18h à l'Institut universitaire d'études Juve et Livizel. Je rappelle l'adresse, 119 rue Lafayette à Paris dans le 10e. Toutes les informations pour les inscriptions et les renseignements aussi se trouvent sur le site de l'Institut Elie Wiesel, www.institutelieviesel.com. Et on se dit bonsoir et on se retrouve le 19 novembre. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.